Dans un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 29 juillet 2024 et c'est une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Jean-Louis, au micro donc de Radio Libre en Périgord. Pour cette chronique, je vais commencer par revenir sur les sujets que j'ai évoqués la semaine dernière à travers une déclaration de la Libre Pensée et un communiqué de presse de la Libre Pensée qui évoquait les questions institutionnelles et par rapport à la situation politique que nous connaissons aujourd'hui et la lutte, comment lutter contre l'extrême droite. Alors je ne reviens pas, je ne vais pas vous relire l'ensemble de ces déclarations, mais simplement les grandes lignes. Pour lutter efficacement contre l'extrême droite, il faut impérativement abroger les lois scélérates, c'est-à-dire la loi scélérate Cazeneuve de 2017 sur la sécurité publique, la loi sécurité globale, la loi séparatisme, la loi immigration, les lois et mesures antisociales, retraite et décote, chômage, emploi, RSA, AME, etc., etc. Il faut rompre avec les institutions de la Ve République et mettre en œuvre l'élection d'une constituante souveraine, seule à même de décider de nouvelles institutions démocratiques et authentiquement républicaines pour le pays. Voilà, c'était un des passages importants donc, de la déclaration de la Fédération nationale de la libre pensée en date du 14 juillet. Et puis le communiqué de presse qui est, lui, en date du 19 juillet, eh bien, revient également donc sur les éléments qui sont intervenus dans les jours qui précédaient, et notamment l'élection de Yaël Braun-Pivet sur la base d'une magouille au niveau de l'Assemblée nationale, pour la réélire, donc au perchoir de l'Assemblée nationale. Donc voilà les éléments qui montrent comment on entre encore un peu plus dans une crise de régime et dans une situation dans laquelle on se rend compte que la Ve République est définitivement une constitution antidémocratique. La formule du coup d'État permanent qui avait été utilisée pour la décrire ne lui a jamais si bien convenu. Alors, pour donner une contribution sur cette question, je vous propose un texte que j'ai trouvé dans Mediapart, intitulé « Ministre et député ». Pardon, excusez-moi, j'ai pas pris le bon. Une crise de régime, une question de culture politique. C'est un texte de Paul Alliès, professeur émérite à l'Université de Montpellier, doyen honoraire de la faculté de droit et président de la Convention pour la 6e République, C6R en abrégé. Alors, l'intérêt de ce texte que vous allez découvrir, c'est dans l'évocation des conditions de naissance de la Ve République qui ont marqué justement son caractère antidémocratique. Je vous laisse en juger. Alors, que dit donc Paul Alliès ? Les constitutionnalistes se pressent au portillon médiatique pour livrer leur expertise de la crise politique actuelle. Embarrassés par l'absence d'une issue normative, leur spécialité, certains réinventent les origines en imaginant un régime d'essence parlementaire seulement entravé par un défaut de culture politique. Et s'ils avaient tout faux ? Ainsi, le même jour, le 18 juillet dernier, Dominique Rousseau, professeur émérite à l'Université Paris 1, dans Le Monde, et Jean Garrigue, professeur émérite à l'Université d'Orléans, dans Midi Libre, estiment que, citation, « nous avons un problème » pas de droit, mais de culture politique, qui va à l'encontre de l'esprit de notre Constitution. Et celle-ci est avant tout parlementaire. S'il y a ingouvernabilité, c'est la faute de nos responsables politiques, titre le quotidien du soir. Ils n'auront pas été à la hauteur, explique donc Dominique Rousseau. Et celui du matin méridional, titre « Inventer des compromis dans une coalition », donc Jean Garrigue, évoque la nécessité d'une révolution culturelle pour s'adapter à nos institutions. Ce sont donc des citations. Pour les deux universitaires, figure éminente du commentaire spécialisé et savant des usages de la loi fondamentale, la Ve République est avant tout un régime parlementaire, conçu comme tel dès 1958 par Charles de Gaulle et Michel Debré. C'est la pratique qui l'aurait transformé en régime semi-présidentiel, les présidents successifs, Sarkozy et Macron surtout, ayant faussé son fonctionnement habituel. Et ils poursuivent, la Ve République a montré sa capacité d'adaptation, de plasticité, de souplesse. Ce sont les propos de Jean Garrigue. Elle a été élaborée pour qu'elle puisse fonctionner sans majorité nette avec des coalitions. Citation de Dominique Rousseau. Ce n'est plus un récit. C'est un roman réinventé par ces gardiens du sens caché de la science en apparence neutre, du droit, inaccessible aux profanes. Leurs deux entretiens sont étonnamment proches, presque à l'identique, sur la forme et le fond. Qu'ils soient publiés le même jour, celui de l'ouverture de la 17e législature marquée par des manifestations de rue, au centre et à la périphérie de la presse écrite, en fait une sorte d'allégorie d'un phénomène typique de la Ve République à partir des années 1970. La politique qui semble pouvoir être saisie par le droit, dont les interprètes posséderaient le monopole de l'expertise. Comme l'écrivain Bastien François, en épilogue d'un des meilleurs ouvrages sur le sujet qui nous occupe, la Constitution n'est plus alors réduite à n'être que la règle fragile de ses premiers usagers. Elle devient une règle de droit à la valeur universelle qui gouverne les conduites de générations présentes à venir. Et un peu plus loin, tout se passe comme si la Constitution devenait, pour parler comme Marx, le moteur actif des pratiques politiques. Mais pour cela, il aura fallu que s'efface des mémoires le souvenir des combats, des doutes ou des désillusions qu'a pu engendrer la Constitution naissante, il aura fallu que se définisse un autre rapport au temps qui s'invente par un imaginaire de la continuité. Examinons donc l'assertion juridique majeure de nos deux auteurs avant d'en mesurer les effets politiques. Quand et comment s'est fait un accord sur un parlementarisme rationalisé ? Sur la nature parlementaire de la Ve République des origines, rappelons, pour mémoire, le contexte spécifique de 1958. L'enlisement de la 4e République dans la guerre d'Algérie avec la menace d'un coup d'État le 13 mai. L'appel au général de Gaulle, dernier président du Conseil d'un régime miné par la fragilité de ses gouvernements. Le vote le 3 juin d'une loi constitutionnelle par un Parlement qui se dessaisit de ses pouvoirs constituants et le remet à un Conseil interministériel restreint chargé par le gouvernement d'établir le projet de réforme constitutionnelle. Un comité consultatif de 39 membres travaillera 15 jours sur le texte. Le caractère secret et restreint des cercles de la délibération, à l'opposé de la tradition des constituantes, n'est pas secondaire. Le texte fut préparé à huis clos par le gouvernement et ses conseillers. Il n'a jamais fait l'objet de la moindre consultation du Parlement et ses travaux préparatoires, entre guillemets, restèrent « confidentiels défense » jusqu'en 1984. Tout ceci fut bien fait pour abriter les échanges et les compromis entre De Gaulle, Michel Debré, Georges Pompidou, Raymond Jeannot, d'une part, et d'autre part, les ministres d'État, Guy Mollet, Pierre Fumelin, Félix Houphouët-Boigny, Louis Jacquinot, figure de la 4e République. L'accord entre eux se fait sur un parlementarisme rationalisé, soit un ensemble de règles contenant strictement le Parlement dans un rôle de législateur a minima et de contrôler par défaut, Il s'agissait de contenir et assainir, de fixer des limites nettes et des freins puissants aux assemblées. La batterie d'articles au cœur du système, c'est-à-dire les articles 49, 40, 41, 44, 45, n'a pas négligé les détails de leur fonctionnement. Le nombre de commissions permanentes par l'article 43, la fixation de l'ordre du jour par le 48, la procédure à respecter dans la discussion législative par l'article 42, l'exercice d'amendements par l'article 44, le fonctionnement du bicamérisme par l'article 45. Il s'agissait de faire prévaloir l'idée énoncée par De Gaulle dans un discours prononcé à Bayeux dès le 16 juin 1946. Citation donc de De Gaulle. « Du Parlement, il va de soi que le pouvoir exécutif ne saurait procéder. C'est donc du chef de l'État, placé au-dessus des partis, qu'il doit procéder. » On connaît l'épilogue de cette vision dans la révision de 1962 établissant l'élection du président de la République au suffrage universel direct. C'est bien le seul dispositif que les anciens, Mollet, Fimelin, Pinet, etc., n'auraient pu accepter. Fin connaisseurs de leur fragilité gouvernementale passée, ils ratifièrent en 1958 les dispositifs anti-parlementaires. Quand le parlementarisme restreint devient un corps de règles. Et ceci a l'air fort loin. Un ensemble de lois organiques, doté d'un statut spécifique, est venu prolonger la Constitution pour définir et limiter encore un peu plus le fonctionnement des assemblées et le statut des parlementaires. Elles ont toutes été prises par ordonnance dans les 4 mois suivant la promulgation de la Constitution. Et le tout nouveau Conseil constitutionnel a considéré que leurs dispositions s'imposaient au Parlement, de sorte que ce dispositif s'est trouvé verrouillé dès les premiers mois du nouveau régime. Il est allé jusqu'à déclarer inconstitutionnel, décision de juin 1959, 14 articles du règlement de l'Assemblée nationale suspectés de pouvoir restaurer l'interpellation. L'interpellation du gouvernement par l'Assemblée nationale. On a pu alors parler de parlementarisme restreint. La messe fut dite par Michel Debré dans un célèbre discours devant le Conseil d'État le 27 août 1958. Ah, si nous avions la possibilité de faire surgir demain une majorité nette et constante, il ne serait pas nécessaire de prévoir un Sénat dont le rôle principal est de soutenir, le cas échéant, un gouvernement contre une assemblée trop envahissante parce que trop divisée. Parce qu'en France, la stabilité gouvernementale ne peut résulter d'abord de la loi électorale, il faut qu'elle résulte au moins en partie de la réglementation constitutionnelle. Je rappelle que ce sont des propos de Michel Debré qui datent du 27 août 1958. L'analyse faite par une assemblée de constitutionnalistes réunis pour le 30e anniversaire de la Constitution est claire. Citation. « La Constitution n'est plus seulement une idée. C'est de plus en plus une règle. La Constitution de 1958 a été faite par des juges, ceux du Conseil d'État, et pour des juges, ceux du Conseil constitutionnel. La Constitution est une Constitution normative et pas simplement institutionnelle. » Place donc aux experts et spécialistes, juristes et historiens. Le développement du contentieux constitutionnel aidant, qui vont pouvoir faire parler le texte de la loi fondamentale et imposer leurs représentants des institutions aux acteurs politiques eux-mêmes, c'est bien ce que font Dominique Rousseau et Jean Garrigue. Quand le régime est celui d'un parlementarisme négatif, il passe par profits et pertes les analyses nombreuses de collègues qui n'ont pas vu dans cette refondation constitutionnelle un renouveau du parlementarisme. Ainsi, Pierre Avril, qui y voit un parlementarisme négatif. Citation. Le gouvernement ne tient pas seulement ses pouvoirs juridiques, mais aussi son autorité politique de la seule nomination présidentielle et la confiance de l'Assemblée n'est sollicitée qu'à titre accessoire, quasiment de courtoisie. Un peu plus loin, dès lors, notre régime peut être qualifié de parlementarisme négatif. La Ve République a métamorphosé le parlementarisme anarchique et instable de naguère en un système comparable à celui des régimes parlementaires contemporains, mais elle l'a fait à contre-courant en détachant le gouvernement des assemblées. Fin de citation. Le fait majoritaire, qui a pris son élan avec le référendum du 28 octobre 1962, je rappelle donc c'est le référendum qui a mis en place l'élection du président de la République au suffrage universel. Donc, le référendum du 28 octobre 1962 a achevé de réduire le Parlement à un soutien forcé du gouvernement qui procède de lui. Le présidentialisme peut prospérer dans cette appropriation qui nie le principe simple sur lequel repose tout parlementarisme, même rationalisé. Ainsi, le compromis initial qui a caractérisé la rédaction de la Constitution ne durera pas. Dès les premières années de la Ve République, la prééminence du président s'affirme et écarte toute lecture parlementaire. Guy Mollet lui-même n'en est pas revenu. La Constitution, 15 ans après, n'a jamais reçu un début d'application, dit-il. Il s'interrogeait pour savoir si un verre qu'il n'aurait pas vu était dans le fruit d'un gaullisme pragmatique qui lui allait si bien en 1958. La résilience parlementaire de 1958 est si problématique qu'un Maurice Duverger imagine nécessaire de reconvertir les règles du parlementarisme rationalisé des origines. Il dit « Après 16 ans de Ve République, le Parlement fait problème, comme après 12 ans de Quatrième. Son défaut principal n'est plus de dominer le gouvernement, mais d'être dominé par lui. Pour le corriger, il faut employer les mêmes moyens qu'en 1958 pour corriger le défaut symétrique. » Fin de citation. On pourrait multiplier ces diagnostics ou témoignages d'acteurs politiques ou universitaires contemporains de la période. Ils ne créditent pas l'idée qu'une essence parlementaire serait restée un prêt-à-porter jusqu'à aujourd'hui. s'en tenir aux règles fixées en 1958 exigerait une dialectique avec une autorité référentielle de l'exécutif qui fait cruellement défaut. Qui peut imaginer Macron en De Gaulle Bayeux quand il s'emploie avec le succès que l'on sait à dissoudre la notion même de chef d'État ? Aucun ne pense en tout cas que l'inadaptation des institutions soit due à un défaut de culture politique. La notion même de culture politique a fait l'objet de beaucoup de critiques, surtout après l'usage inflationniste qu'en firent les politistes américains dans les années 60 pour comparer les systèmes politiques différents et expliquer les retards de certains d'entre eux. Apparemment, point n'est besoin de trop s'aventurer dans ces débats au demeurant fertile, tant le contenu qu'en donnent Rousseau et Garrigue se limite à une dimension très fonctionnelle, la capacité de trouver des compromis pour former les coalitions. La multiplication des groupes parlementaires, 11 dans cette législature, devrait faciliter la chose à condition de surmonter l'obstacle de la minorité sans chef, qu'il serait, hormis pour le Rassemblement national. Tout est donc vu à travers le prisme de la culture des responsables politiques. Ils sont condamnés à être soit des héros institutionnels sauvant la législature du chaos, soit des incapables menaçant la plasticité de nos institutions. On observera que c'est aussi l'opinion du président de la République appelant le 23 juillet, citation, « les forces politiques à faire des compromis pour qu'elles soient à la hauteur de ce qu'elles ont fait dans l'entre-deux-tours » et d'ajouter, lui aussi, « ce n'est pas dans notre tradition, mais c'est être à la hauteur du moment ». Décidément, les problèmes de grandeur d'homme ramenés à des mesures d'altitude est une manie bien accordée au climat décadent que nous vivons. Faut-il rappeler que la construction normative de la Constitution au cours des 66 dernières années a produit des représentations atrophiées du parlementarisme, rationalisé ou pas. Et s'il y a une culture politique enracinée dans notre histoire institutionnelle, c'est bien celle du bonapartisme dont la Ve République est le dernier épisode. La logique élémentaire du parlementarisme est celle des « check and balance », des poids et contrepoids qui produisent un équilibre des pouvoirs. L'extranéité du gouvernement et du Premier ministre, dont la nomination est exclusivement entre les mains du président de la République, rend très aléatoire un compromis majoritaire. Les comportements politiques dans les institutions vis-à-vis d'elles portent les stigmates d'une dévitalisation du parlementarisme dès les premiers jours de la Ve République. Le mode de scrutin majoritaire, l'irresponsabilité au principe du présidentialisme, l'instrumentalisation du gouvernement ont une responsabilité bien plus concrète et grande dans notre culture politique que l'incapacité des leaders à savoir négocier entre eux. Le chaos dans lequel se fait l'installation des députés et l'organisation de l'Assemblée foulant aux pieds les plus vulnérables principes du gouvernement représentatif rendent particulièrement improbables des transactions systémiques. C'est le tableau d'une crise de régime inconnue jusqu'ici et il faut le regarder en face. La crise en question ne se résoudra pas par des solutions autant cosmétiques que provisoires. Et la prochaine échéance de l'élection présidentielle pèse lourdement sur le calendrier. Une possible démission du président avant 2027 doit être prise en compte. Elle est d'ores et déjà réclamée par Marine Le Pen. Il faut donc populariser des perspectives qui puissent à la fois rassurer les citoyens et rendre crédible une sortie de ce régime exsangue. Disons-le tout net, mais on le répète ici depuis le 19 juin. Le programme du nouveau Front populaire, formant un paragraphe intitulé « Vers une sixième République », hormis l'instauration d'une représentation proportionnelle comme mode de scrutin législatif, est inapplicable en l'état. La désormais possible première ministre choisie par le nouveau Front populaire, Lucie Castet, doit donner corps à des propositions formant une issue crédible et limitée à la résolution de la crise de régime. En l'état actuel des choses, ce ne peut être au moyen d'une convocation d'une assemblée constituante citoyenne élue. C'est la 7e proposition du programme. Entre changer la République et changer de République, il y a tout un espace, le comment étant essentiel. C'est lui qui est de nature à rassurer les citoyens, désireux d'en finir avec le présidentialisme et raisonnablement inquiet sur l'incertitude d'un changement de la loi fondamentale. Pour cela, il existe bel et bien l'article 11 de la Constitution qui prévoit que, sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions, le président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi sur l'organisation des pouvoirs publics. C'est celui qui fut utilisé par De Gaulle en 1962, suscitant une polémique qui ne s'est pas éteinte. Celle-ci portait surtout sur l'impraticabilité de l'article 89, considéré comme voie royale de toute révision. Quoi qu'il en soit, l'usage de l'article 11 reste adéquat à la situation. Benoît Payan, maire de Marseille, s'en est fait le talentueux avocat dès le lundi 8 juillet. Sur quoi devrait porter la réforme ? Sur quelques sujets seulement, suffisant pour passer à un régime politique d'équilibre. Pour cela, il suffira de supprimer trois articles de la Constitution. L'article 8, le président nomme et révoque de fait le Premier ministre. L'article 9, le président préside le Conseil des ministres. Et l'article 12, le président a l'exclusivité du droit de dissolution. Au lieu de cela, le Premier ministre sera choisi et investi par l'Assemblée nationale. C'est lui qui aura le droit de dissolution. C'est la possibilité d'une évolution tranquille vers un régime primo-ministériel, surtout si greffe l'adoption de la proportionnelle. Pour prévenir le risque d'une victoire de l'extrême droite à la présidentielle, il faut aussi modifier le titre 7 de la Constitution, celui portant sur le Conseil constitutionnel. Principalement l'article 56 fixant la désignation de ses membres par les présidents de la République et des deux assemblées, et la présence de droit des anciens présidents de la République. Plusieurs propositions existent pour établir leur indépendance, par exemple leur élection par une majorité des deux tiers au Parlement réuni en Congrès. En quelque sorte, il faut faire du Conseil une vraie Cour suprême et conforter son rôle dans la défense des droits fondamentaux via le bloc de constitutionnalité et les principes de valeur constitutionnelle, dispositif auquel l'extrême droite prévoit de s'attaquer et de s'affranchir en mettant au pas le Conseil constitutionnel. L'appel à un référendum sur ces sujets emporte plusieurs avantages. D'abord, celui de mettre au pied du mur Emmanuel Macron, qui a plusieurs fois annoncé au cours des 7 dernières années sa volonté de réformer la Constitution sans jamais passer à l'acte. Mais aussi, pour s'opposer à une telle réforme, il faudrait défendre le statu quo et il devrait alors se faire l'avocat de son propre pouvoir personnel. C'est donc bien un appel à ce que le peuple souverain se saisisse de ces très politiques questions constitutionnelles avec entrain et optimisme, comme on avait pu le voir lors du débat sur la Constitution européenne en 2005. La participation pourrait y être aussi élevée et les résultats faire peu de doute. Ce serait enfin la libération démocratique d'un système anachronique qui nous mène au bord du gouffre autoritaire et pire encore. La Ve République présidentialiste a fait amplement son temps anxiogène. Le reparlementariser est une urgente mesure de salut public. Donc voilà, c'était les propos donc de cet universitaire, je rappelle, Paul Aliès, professeur émérite à l'Université de Montpellier, doyen honoraire de la faculté de droit et président donc de la Convention pour la Sixième République. Donc bien évidemment, les propositions qu'il fait à la fin de son texte sont de sa seule responsabilité. Et je rappelle que bon, l'intérêt de ce texte, c'est donc l'ensemble des propos donc, de cet universitaire sur la gestation de la Ve République qui marque finalement pour la Ve République dans sa globalité, sa caractéristique, je dirais, particulièrement antidémocratique. Voilà. Alors, j'ai également un texte, bon, je pense que je peux vous lire au moins le début, puisque dans cette situation, illustration finalement de cette situation qui est un vrai défi à la démocratie, ce gouvernement provisoire a promulgué des centaines et des centaines de décrets, et de circulaires divers et variés, dont un décret sur la loi immigration. Là, on est quand même très loin de la gestion des affaires courantes. C'est tenter de mettre une situation irréversible sur les dispositions les plus antidémocratiques prises par ce gouvernement ces dernières années. Donc Serge Slama, dont on a déjà lu, je crois, plusieurs fois des articles dans le cadre de cette chronique, publie sur Bastamag le 18 juillet un article « Loi immigration, un décret qui risque de produire un grand nombre de sans-papiers ». Les décrets publiés mardi, donc c'était le mardi précédent, le 18 juillet, par le gouvernement démissionnaire concrétise le caractère régressif de la loi immigration, alerte Serge Slama, professeur de droit public, exemple avec le contrat d'engagement au respect des principes de la République. Juste avant l'acceptation de la démission du gouvernement Attal par le président de la République le 16 juillet, ce gouvernement a publié au journal officiel une série de décrets relatifs à l'asile, l'immigration et l'intégration, venant mettre en musique la loi immigration-intégration du 26 janvier 2024, dite « loi Darmanin ». Il concrétise dans la partie réglementaire du Code des étrangers, le CESEDA, le caractère régressif de ce texte pour les étrangers et demandeurs d'asile. Rappelons que la loi du 26 janvier 2024 était déjà partiellement entrée en vigueur juste après sa promulgation. Elle s'était notamment accompagnée de 4 circulaires pour assurer leur mise en œuvre, dont la fameuse circulaire de régularisation des métiers en tension. Mais une trentaine de dispositions de cette loi étaient conditionnées à la publication de décrets. Le premier décret, qui met en œuvre au 15 juillet la réforme du contentieux des étrangers, devait paraître le 2 juillet en pleine campagne électorale. Pour ne pas provoquer de polémique, le gouvernement en a différé la publication au Journal officiel le 14 juillet. Ce même jour est également paru un décret mettant en œuvre la réforme de l'Organisation de la Cour nationale du droit d'asile, CNDA, avec notamment la création de chambres territoriales en région et la généralisation du juge unique au détriment des formations collégiales dans lesquelles siège un assesseur désigné par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, le HCR. Le 16 juillet sont parus 6 autres décrets d'application de la loi Darmanin et 2 autres décrets créant des fichiers, notamment France Visa. Enfin, le jour même de la démission du gouvernement a été signé un dernier décret paru le 17 juillet mettant en œuvre les pôles territoriaux France Asile et modifiant la procédure de demande d'asile. Si, de manière générale, ces décrets sont aussi critiquables que la loi Darmanin elle-même, qui, rappelons-le, a été adoptée avec les voix du RN et constitue la loi la plus restrictive en matière de droit des étrangers de la Ve République, on peut contester certaines modalités retenues. Par exemple, le décret sur la simplification du contentieux des étrangers permet de généraliser les vidéo-audiences et, dans certains cas de figure, c'est un agent du centre de rétention administrative ou la zone d'attente qui assurera une partie des missions des greffiers du tribunal. En outre, avec ces décrets, un étranger pourrait être en rétention administrative jusqu'à 6 jours avant qu'un juge judiciaire ne se prononce sur son maintien. De même, le pôle France Asile, qui se trouveront au sein des les pôles France Asile, qui se trouveront au sein des préfectures avec les agents du guichet unique des demandeurs d'asile, le GUDA, aucune mesure n'est prévue pour assurer la confidentialité de la demande d'asile lorsqu'elle est enregistrée par l'agent de l'OFPRA et que le demandeur remet le formulaire de demande d'asile. Mais parmi l'ensemble de ces décrets, le plus contestable est le décret numéro 2024-811 relatif au contrat d'engagement au respect des principes de la République, en particulier son annexe, qui définit précisément les 7 principes auxquels tout étranger accueilli, entre guillemets, SIC, en France, doit, par une déclaration sur l'honneur, obligatoirement souscrire. Cette mesure risque de produire un grand nombre de sans-papiers qui feront l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, pas nécessairement exécutable. Il existe déjà depuis près de 20 ans un contrat que doivent signer les étrangers souhaitant s'installer durablement sur le territoire français, appelé contrat d'intégration républicaine, le CIR. Dans le cadre de ce contrat, l'État impose à ces étrangers un certain nombre de prestations assurées par l'Office de l'immigration et de l'intégration visant à l'apprentissage des valeurs et des principes de la République, de la langue française, de l'intégration sociale et professionnelle et de l'accès à l'autonomie. Si l'étranger ne respecte pas ses prescriptions, il ne peut accéder à un séjour durable, c'est-à-dire la carte pluriannuelle ou la carte de résident. Mais la loi du 26 janvier 2024 a prévu la création d'un nouveau contrat, le contrat d'engagement aux principes de la République, pour lequel tout étranger qui sollicite un document de séjour s'engage à respecter les principes, à savoir la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République sont au sens de l'article 2 de la Constitution, l'intégrité définie par les frontières nationales et la laïcité. On connaissait déjà les principes en question, puisque ces dispositions viennent à l'origine de la loi confortant le respect des principes de la République, dite aussi loi séparatiste, on en a parlé tout à l'heure. Cette dernière a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel. La loi Darmanin a donc précisé ses comportements. Et je vous propose donc d'en rester là. L'article, j'en ai lu à peu près à la moitié là, sur cet article du décret relatif à la loi immigration. Et donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique du groupe Fred Zeller, lundi prochain, donc toujours au micro de Radio Libre en Périgord.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller lpdordogne.fr toutes les chroniques du groupe Fretzeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi 11h30.